Très gentil, merci. Alors, juste pour commencer, en fait, on a étudié Malachi au groupe de jeunes sur plusieurs soirées. Donc là, on va un peu vous donner un résumé assez compact. On va essayer d'être le plus rapide possible. Donc, en gros, voilà, on a pris les trois chapitres, on les a divisés. Donc, on sera quatre à vous raconter chapitre par chapitre. Il y a juste un truc qu'on oublie souvent de faire, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, c'est de remettre dans le contexte. Parce que bon, enfin aujourd'hui on sacrifie plus les moutons, donc des fois peut-être on est un peu perturbé, donc on va se remettre un peu dedans. Donc on va revenir au premier chapitre de la Genèse. Du coup, on va vraiment revenir depuis le tout début pour expliquer jusqu'à la fin pourquoi on en est là et pourquoi Malachi il dit ça au peuple d'Israël. Parce que enfin, ce sera plus cohérent. Donc, du coup, on reprend depuis le début avec la création, Adam, Ève. On va un peu plus loin. Ensuite, là où ça nous intéresse un peu plus, sur Abraham, Isaac, Jacob. Donc, puis Joseph, qui, après, justement, qui arrive en Égypte avec tous ses frères, où ils sont bien traités pendant des bonnes années, où ils deviennent quand même de plus en plus jusqu'à ce que le roi des Égyptiens oublie ce qui s'est passé avant et commence à les traiter comme esclaves. Ensuite, justement, il y a Moïse et Aaron qui sont appelés à délivrer le peuple pour aller justement à la terre promise. Donc, ils arrivent à s'enfuir par plusieurs méthodes. Ensuite, le peuple d'Israël oublie tout ce que Dieu a fait pour eux. Alors, ils s'éloignent, ils se rapprochent, ils s'éloignent. Enfin. Du coup, pour les punir, Dieu, il les met 40 ans dans le désert en disant, ben, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils verront pas Canaan. À part Moïse qui a pu l'avoir depuis un peu loin, mais il n'a pas pu rentrer dedans. Du coup, voilà, après, ça nous amène, Moïse décède, Josué peut enfin rentrer dans le peuple, dans le pays, exactement. Et puis, à partir de là, il n'y a pas tout de suite les rois, il y a les juges. Donc, les juges, parce que Dieu voulait pas mettre des rois comme les autres peuples aux alentours, mais le peuple d'Israël oublie à chaque fois qui est Dieu. Alors les juges, qui sont souvent, pas tout le temps, mais souvent des chefs des armées, donc on traduit aussi par chef, qui va un peu essayer de ramener le peuple d'Israël sur les bonnes voies. Puis à la fin, enfin à la fin avec Samuel, et puis ensuite il y aura Saül, le premier roi. Donc Saül, Salomon, non, David, Salomon, et ensuite les rois, il y a les bons rois et les mauvais rois, enfin ça recommence comme toujours. Enfin, ensuite, enfin ouais, voilà, il y a le moment où Salomon devient un très grand roi, qui est très riche, qui construit un énorme temple. Et puis alors, voilà, parce que j'ai à dire un truc un peu compliqué là. Oui, après Samuel, pardon. Non, je le mets pas ici parce que c'est vraiment, il n'y a pas que, enfin le truc que j'ai en fait, voilà, ça ressemble à ça. Donc, il y a pas que le peuple d'Israël, il y a aussi Babylone, il y a les Égyptiens, il y a tout en parallèle du coup, voilà. Donc ensuite, il faut pas oublier que Babylone arrive à reprendre tous les Israélites pour les amener à Babylone. Sous le règne du roi Cyrus, normalement. Et alors, pendant un moment, ça dure un certain moment, je crois, 70 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Et puis, le roi en question, enfin, après Babylone est devenu Perse, sous l'Empire Perse. Et en fait, les rois, ils avaient un peu une mentalité à dire. On s'en fiche, enfin, eux, ils croyaient à un certain Dieu qu'ils adoraient, mais tant mieux si les Israélites, ils aimaient bien leur Dieu, soi-disant, qui était le roi de tout le monde. Ils disaient très bien, je veux pas avoir d'embrouille, alors je dis, vous pouvez aller adorer votre Dieu. Et ce qu'ils voulaient, les Israélites, c'était retourner en Israël, parce que quand ils se sont fait prendre, il y a eu, donc tout a été saccagé, le temple de Salomon a été détruit. Et du coup, ils voulaient retourner en Israël pour reconstruire Israël. Donc, si on veut, c'était quand même 70 ans plus tard. Donc, ceux qui ont vécu en Israël, c'est des très vieux. Et ceux qui vont revenir, eh ben, ils n'ont jamais vraiment connu cet Israël-là. Et alors, ils reviennent et puis ils découvrent un pays dont on leur a toujours parlé, comme quoi, apparemment, c'est quelque chose d'assez magique. Enfin, bref. Mais du coup, ça devient quand même assez compliqué parce que, ben, faut tout reconstruire, faut reprendre. Et puis, ben, comme par hasard, le peuple s'éloigne. Et donc, en fait, si vous voulez, là, au niveau de la chronologie, on arrive à un moment où on est à la fin de l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que Jésus va bientôt naître, parce que pendant une certaine période, je ne sais plus combien de temps, mais une certaine période, je crois une centaine d'années, si je dis pas. Pardon? 400? Ah ouais, oui, 400, oui, pardon. Non, je regarde autre chose. Oui, c'est marqué moins 450. Alors, pendant 400 ans, en fait, on ne sait pas ce qui se passe entre la fin, parce que Malachie, Néhémie, c'est la même période. Hein. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à Jésus ou un petit peu avant Jésus. Donc, si vous ouvrez votre Bible, vous avez Malachie normalement qui est à la fin. Alors, la différence, Malachie, Néhémie, c'est la même période parce que Néhémie, c'était le goûteur du roi. Donc lui, du roi en Perse, justement, donc lui devait rester à Babylone. Et pourtant, il voulait vraiment revenir, justement, avec tout le monde. Enfin, donc voilà, c'est là qu'on remarque que c'est les deux périodes qui sont les mêmes. Et du coup, Malachie, il revient parce que les gens, ils commençaient à devenir aussi. En fait, quand ils sont revenus, pardon. Quand ils sont revenus en Israël, ils ont relu toutes les lois, ce qui avait pris plus ou moins une journée. Donc, si vous avez trouvé long les trois premiers chapitres, bah, imaginez ce que ça pouvait être pendant une journée. Et ils ont repris toutes les lois, et ils étaient vraiment bien dedans, mais comme par hasard, ils se sont éloignés. Alors, Malachie, il est revenu en disant, par exemple, ils disent, ouais, vous sacrifiez des moutons qui ne sont pas les premiers-nés, ils sont pas bons, alors que eux, ben, ils disent, ah, j'ai péché, bon, pas grave, hop là, je vais prendre le petit mouton là que j'aime pas, hop, puis je vais le sacrifier, puis tant mieux, je suis pardonné de mes péchés. Puis lui, il revient un peu, mais sur beaucoup de choses. Il revient pour remettre un peu les gens sur le droit chemin en disant, non, vous faites n'importe quoi, là, faut arrêter. Et du coup, voilà, dans le contexte où on en est approximativement. Ensuite, il y a Aurélie, je crois, qui va. C'est toi? Ah non, c'est Philippe qui va reprendre. Voilà, pour expliquer le premier chapitre.
Alors, comme a dit Gaël, je vais faire le premier chapitre. Et justement, comme il l'a dit, eh ben, le peuple vient de retourner en Israël. Et c'est surtout justement les enfants de ceux qui se sont fait déporter qui sont là. Alors, à chaque fois, ils ont entendu, oui, Jérusalem, à notre époque, de mon temps, vous savez. C'était magnifique, c'était un endroit merveilleux, on avait des richesses, etc. Donc, quand ils sont tout contents de rentrer, ils sont vraiment excités. Et quand ils arrivent enfin à Jérusalem, ils voient que tout est saccagé, justement, et du coup, ils sont découragés, désespérés. Et ils ont une perte de confiance en Dieu, parce qu'ils se sont dit, Dieu nous protège, on a encore de la richesse. Et du coup, ils ont été déçus dans ce qu'ils pensaient et dans ce qu'ils voulaient. Et donc, pour nous, combien de fois, quand on a prié, quand on a désiré quelque chose, ou quand on a entendu des témoignages, par exemple, de gens qui sont devenus chrétiens, tout d'un coup, ils ont eu une joie, ils ont été libérés de plein de choses, et on dit, nous aussi, on veut ça. Et on a prié pour avoir ces mêmes choses, et on ne les a pas eues. Combien de fois ça nous a aussi découragés, et enfin, avoir moins confiance en Dieu. Et à ce moment-là, on se pose la même question que le peuple d'Israël. Dieu, m'aimes-tu? On le voit au verset 2 dans Malachie. Le Seigneur déclare à son peuple, je vous aime. On lui demande, où est la preuve de ton amour? Dieu, ici, à travers Malachie, il rappelle au peuple ce qu'il a fait pour eux. Il les a aimés. Il a aimé Jacob, mais il a repoussé Ésaü. On le voit ici, toujours au verset 2. Le Seigneur répond, Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob? Pourtant, j'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Ésaü. Donc, en donnant cet exemple, Dieu montre tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Il était en faveur de Jacob et en a fait pour un certain temps, pendant le temps qu'il respectait la parole du Seigneur, il en a fait une nation riche et prospère. Et au contraire, pour le peuple d'Ésaü et ses descendants, toute sa région a été dévastée parce qu'il ne suivait pas les principes de Dieu. Le peuple a oublié ce que Dieu a fait pour eux. C'est un peu comme quand ils sortaient d'Égypte, comme Gaël l'a dit. Eh ben, ils ont oublié que c'est Dieu qui leur a fait sortir d'Égypte. Ils ont oublié que c'est grâce à sa puissance qu'ils ont pu sortir d'Égypte et pouvoir aller dans un pays prospère et riche. Et là, c'est la même chose. Ils ont oublié toutes les promesses, tout ce que Dieu a fait pour eux. Et ils se concentrent juste sur le moment, leur moment où ils ne reçoivent rien. Au verset 7, le peuple demande en quoi t'avons-nous méprisé ? Et Dieu répond : vous apportez sur mon autel des aliments indignes de moi. Et vous dites : en quoi offensons-nous ta dignité ? Eh bien, c'est en traitant mon autel avec désinvolture. Les offrandes de l'époque pourraient être, par exemple, les louanges de maintenant ou les prières de maintenant. Et combien de fois, nous, en 2014, avons, après des prières sans réponse, après des longs moments de prière, toujours la même prière, avons perdu la foi dans cette prière, ou si on a estimé avoir attendu trop longtemps, assez longtemps pour être répondu, ou qu'on n'a pas été répondu de la manière qu'on voulait, qu'on a été déçu et qu'on a juste baissé les bras dans la prière, arrêté de prier, ou encore qu'on a continué à prier cette prière, mais juste par habitude. Combien de fois l'avons-nous fait ? Et Dieu déteste cela. Il dit, eh bien, c'est en traitant mon tel avec désinvolture qu'on fasse les choses par habitude, juste parce qu'on doit le faire. Il ne supporte pas ça. Et on le fait aussi des fois juste pour remplir son rôle. Moi, je le fais assez régulièrement quand j'ai une journée assez chargée. Quand je me mets au lit, je suis très fatigué et je me fais « Oh, il faut vite que je prie !» Et du coup, je commence une prière « Seigneur, merci pour cette journée » et souvent, je m'endors au milieu. Donc, dans ces moments-là, le Seigneur, il préfère qu'on s'abstine, qu'on ne fasse pas ça. Il donne aussi l'exemple du Seigneur. Alors, je vous ai dit que les prières et les louanges de maintenant peuvent être considérées comme un sacrifice. Alors, il donne l'exemple du gouverneur à qui on offre une brebis galeuse. Est-ce qu'il sera content, vous pensez, le gouverneur ? Il sera content ou pas ?
Non.
Bonne réponse. Donc, du coup, est-ce que nous-mêmes, en faisant des prières qui sont juste à moitié pensées, ou en louant le Seigneur, ouais, je te loue, est-ce que vous pensez qu'il va apprécier ça? C'est très bien, vous suivez. Il le dit au verset 10 qu'il préférait justement qu'on s'abstine. Il vaudrait bien mieux que l'un de vous ferme les portes du temple, alors vous n'irez plus allumer pour rien du feu sur mon autel. En effet, je n'ai aucun plaisir à vous voir et les offrandes que vous me présentez ne me sont pas agréables, je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Ensuite, au verset 12, le Seigneur nous rappelle qu'il est célébré dans toutes les nations. Oui, alors, d'une extrémité de la terre à l'autre, des gens de toutes nations reconnaissent ma grandeur. Partout, on brûle du parfum en mon honneur et on m'apporte des offrandes dignes de moi. Oui, les nations reconnaissent ma grandeur, je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Mais, vous la bafouer, en considérant que l'autel du Seigneur n'est pas digne de respect et qu'il ne rapporte rien. Vous dites même, quelle corvée ! Vous n'avez que du mépris pour moi, le Seigneur de l'univers. Vous m'offrez des animaux volés, boiteux ou malades. Comment pourrais-je accepter de telles offres ? Je vous le demande. Alors ici, on pourrait faire un lien avec des dons qu'on fait, par exemple. Les animaux malades ou boiteux. Et quelle corvée aussi d'offrir ce qu'on a ? Enfin, on l'a. On a quand même travailler pour avoir, par exemple, cet argent. Quand vous offrez quelque chose à l'église ou à une œuvre ou pour Dieu, est-ce que vous le faites de bonté de cœur, avec plaisir? Est-ce que vous donnez ce que vous avez de plus cher? Ou bien vous donnez par obligation pour paraître bien par rapport aux autres ou justement par habitude? Ou bien vous le faites aussi pour avoir quelque chose en retour? Alors Seigneur, je t'offre aujourd'hui une heure, mais alors en échange, je voudrais bien une PlayStation 4 pour Noël. C'est pas un message à mes parents, hein, ça. Et donc, le Seigneur n'aime pas ça, parce qu'il veut justement qu'on le fasse avec amour. Il veut pas qu'on offre justement ce qu'on a en surplus ou ce qu'on n'aime pas. Il veut qu'on offre ce qu'on a de meilleur, une brebis sans tache, qu'on le fasse avec notre cœur. Et donc, en conclusion, pour ce chapitre, dans Malachie 1, il nous invite à faire une introspection et voir si nos motivations sont bonnes, voir si on le fait avec le cœur ou juste pour paraître bien et par habitude. Et comme il est dit plus tard, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux et l'Éternel au cœur. Je vous invite à réfléchir pendant une minute.
Alors, moi, je vais vous parler de Malachie sur le chapitre 2. Puis, j'ai divisé ça en trois parties. Alors, dans la première partie, il y a Malachie qui essaye de nous faire comprendre que, enfin, ça dépend des versions, que les sacrificateurs ou les prêtres, ils n'enseignent pas bien la loi. Et puis, quand ils font ça, eh ben, ça fait du mal au peuple. Bon, t'as des bieux, là? Oui, donc ils s'écartent du chemin et puis ils font tomber le peuple. Quand ils font ça, ça brise un peu l'alliance avec Dieu que Israël a fait avec Dieu. Malachie fait aussi une comparaison avec les Lévites, qu'ils ont respecté Dieu et qu'ils sont en parfait accord avec lui. À un moment, lorsqu'il décrit les Lévites, on peut penser qu'il donne une image du Christ lorsqu'il sera sur la terre. Il dit que les Lévites, ils ont de la crainte pour Dieu et comme ils ont de la crainte pour eux, il a établi une alliance parfaite avec eux. Comme la communion entre Jésus et son Père est complète. Dans cette deuxième partie du chapitre, Malachie, il ne nous parle plus des sacrificateurs ou des prêtres, il nous parle du peuple. Il nous fait comprendre qu'Israël, il fait plus attention à l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Et ils commettent des péchés, comme par exemple se marier avec des femmes de dieux étrangers, ou bien de ne plus aimer la femme de sa jeunesse. Puis la femme de sa jeunesse, c'est la femme qu'il a mariée, et puis qu'il n'aime plus. Je pense qu'il est important d'ajouter qu'à un moment il dit qu'on a un seul Dieu véritable, que les Israélites ils vont pour leur femme adorer d'autres dieux que lui. Mais les péchés, c'est pas forcément de leur faute, c'est aussi de la faute des prêtres, parce qu'ils enseignent pas bien, donc le peuple s'écarte. Et les prêtres, au lieu de les appeler à se repentir, ils les font écarter du chemin. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que, ces règles sont encore d'actualité? Le fait d'aimer la femme de sa jeunesse ou de ne pas aimer d'autres femmes qui aiment des dieux étrangers? Je ne vais pas vraiment répondre à cette question parce que je n'ai pas l'expérience. Ça. Et enfin, dans cette dernière partie, il y a les Israélites qui pensent que Dieu il fait pas ce qu'il leur a promis. Comme par exemple, ils lui disent: où donc est le Dieu qui fait régner la justice? Ils pensent aussi que le mal est une bonne chose. Et puis, ils disent ça pour justifier leur acte, vu qu'ils font beaucoup de choses de mal. Et comme Esaïe dit au chapitre 9, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Je vais laisser la place à Aurélie.
Alors, moi, je vais vous parler de Malachie 3. Ça sera la conclusion de tout ce qu'on a appris pendant ces derniers mercredis. Donc, voilà, Malachie 3, c'est un peu la suite de ce que nous disait Ludovic. C'est le fait que, voilà, le peuple disait, mais en quoi le fatiguons-nous? Le Seigneur voit d'un bon œil celui qui agit mal. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a des injustices, etc. Mais Dieu, il le dit clairement aussi dans le chapitre 3, au verset 5, que voilà, qui reviendra et qui fera justice. Donc il dit, je viendrai au milieu de vous pour vous juger. Je m'empresserai d'accuser ceux qui pratiquent la magie, qui commettent l'adultère, qui prononcent de faux serments, qui retiennent le salaire des ouvriers, qui oppriment les veuves et les orphelins, ou qui font du tort aux étrangers. Tous ceux qui ne tiennent aucun compte de moi. Et donc voilà, enfin, je sais pas, peut-être. Je ne sais pas comment vous avez réagi quand vous avez lu ces versets pour la première fois, mais enfin, des fois on peut avoir peur, on peut se dire « Ah, oh, Dieu, il va venir juger », mais on peut aussi être réjoui de se dire « Ben voilà, Dieu, il va revenir mettre de l'ordre », et puis c'est... Voilà, on peut rester accroché à lui et pas se dire « Je vais me détourner de Dieu », parce que ceux qui suivent pas Dieu, au final, ils vivent mieux. Mais voilà, Dieu reviendra et il fera justice, même si c'est pas maintenant que... Même si maintenant, il y a encore de l'injustice. Donc ça nous encourage aussi à nous remettre en question. Qu'est-ce que Dieu dira de ma vie quand il reviendra? Et est-ce qu'au final on tient compte de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on, enfin comme les trois l'ont dit tout à l'heure, est-ce qu'on le suit avec le cœur? Et donc voilà, enfin pour le début du chapitre 3. Ensuite, un peu plus tard dans le chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Dieu, il nous demande de nous approcher de lui d'un cœur sincère, de nouveau, et il dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Donc c'est vraiment le peuple, il est égaré, et puis Dieu, il le rappelle à venir, et Dieu se manifestera. Et donc après, il nous parle de la dîme, au verset 10. « Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. » Donc c'est vrai que, comme Gaël l'a dit tout à l'heure, le peuple faisait des offrandes avec des bêtes qui n'étaient pas importantes pour eux. En fait, c'est comme si on donne un peu notre surplus, notre superflu, enfin ce qui n'est pas utile pour nous. Et Dieu nous demande vraiment de tout lui donner. Donc voilà, après... C'est à nous aussi de voir avec Dieu qu'est-ce qu'il nous demande, par exemple dans les offrandes ou aussi dans d'autres peut-être associations. Voilà, enfin, où est-ce que Dieu veut qu'on donne? Mais voilà, il nous dit clairement que c'est qu'on est appelé à donner plus que notre superflu et qu'il nous comblera de bienfaits. Enfin, lui, il est au-delà de nos richesses, donc voilà, ne pas rester attaché à nos richesses. Et ensuite, vers la fin du verset du chapitre 3, ça revient un peu par rapport au début, donc par rapport à la justice et au jugement de Dieu. Donc comme on voit, le peuple, il est fatigué d'attendre sur toutes les promesses de Dieu. Et nous, dans tout ça, est-ce que des fois on voit pas les réponses de Dieu? Est-ce qu'on arrête de le suivre parce qu'on se dit Dieu il est pas là, Dieu il me répond pas? Mais comme on l'a vu aussi en regardant tout l'historique, on voit que Dieu, même si le peuple il s'éloigne, Dieu il est toujours là, puis il vient toujours nous ramener à lui, en fait. Et dans le verset 20, il nous donne la promesse de... Enfin, je vais vous la lire. « Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut apparaîtra comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres, vous bondirez de joie, comme des veaux au sortir de l'étable. » Et donc voilà, enfin c'est comme on le voyait au début. Si on se compare aux gens qui suivent pas Dieu ici, enfin maintenant sur cette terre, peut-être qu'on se sent, qu'on trouve qu'il y a de l'injustice, etc. Mais voilà, quand Dieu reviendra, on sera libre et voilà, on aura la joie, etc. Donc voilà, c'est vraiment un encouragement en fait à s'accrocher à ses promesses. Malachie, il n'avait pas une tâche facile parce que voilà, le peuple il s'était complètement éloigné. Et ouais, c'est un peu ce qu'on a appris ces derniers mercredis, c'est de pouvoir s'approcher de Dieu, mais pas juste par habitude, mais apprendre à s'approcher de Dieu d'un cœur sincère. Et ouais, quelles que soient nos situations ou nos pensées, ou, etc. Et je vais juste vous laisser quelques questions qu'un des orateurs nous avait posées. Mais je ne vais pas y répondre. Donc, nous qui sommes des Lévites, porteurs de la parole, est-ce qu'on est conscient de notre responsabilité? Est-ce que tous mes biens appartiennent à Dieu? Est-ce que je suis en train de frustrer Dieu? Et dans quel domaine? Et est-ce qu'on s'approche de Dieu avec un cœur sincère?
On va passer à la Sainte Cène. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle, alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous annoncer sa mort, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe.
Je vous invite à entendre prière tous ensemble pendant la Sainte Cène. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta fidélité et je te remercie parce que tu nous donnes des promesses sur lesquelles on peut s'attacher, Seigneur, et je te prie que tu nous apprennes à s'approcher de toi avec un cœur sincère et qu'on puisse aussi prendre cette Sainte Cène en se rappelant tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus, et ouais, que ce soit vraiment en gardant les yeux fixés sur toi, Seigneur. Amen.
Father's right hand, you are Son of God. Donc là, nous allons passer à l'offrande. Et comme vous avez pu le constater, c'est pas la valeur de ce qu'on donne qui est important, mais c'est avec quel cœur on le fait. Et comme on a vu dans Malachi, Dieu ne veut pas qu'on donne notre surplus, mais qu'on puisse donner ce qu'on a. Et il va nous bénir des richesses vraiment plus importantes que de l'argent.
Celebration, breaking into freedom. You're the soul of our hearts. We cast aside our shadows, trust you with our sorrows. You're the soul of our hearts. Dancing to the rhythm of your heart. We're rising from the ashes to the stars. You're
the joy, 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 light in my soul. The joy, 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 making me whole. Though I'm broken, I am running into your arms. Oh.
Merci Seigneur pour cette offrande, merci pour cet argent qu'on a pu donner. Je te prie pour que tu puisses nous guider dans l'utilisation de cet argent, Seigneur, que on puisse l'utiliser comme toi tu le veux. Et merci parce que tu nous donnes des richesses bien plus grandes, Seigneur. Et je te prie pour que on puisse toujours rechercher tes richesses plutôt que les richesses de cette terre, Seigneur. Amen. Alors, bon, on fait ça à la fin du culte, mais on voulait juste vous présenter le groupe de jeunes comme il est en ce moment. Donc, voilà, ça, c'est tout le groupe de jeunes. Et on veut aussi vous présenter l'équipe des responsables, parce qu'il y a eu pas mal de changements, donc peut-être vous savez plus qui sont les responsables. Donc, voilà, moi, je profite d'avoir le micro. Je suis Aurélie, responsable, voilà.
Je m'appelle Philippe, je suis co-resp. Corresp depuis cette année et je viens de cette église.
Bon, alors il y en a beaucoup qui ne doivent pas me connaître ici, mais je suis responsable. Alors, moi, en fait, si on veut, j'étais responsable avec, à l'époque, le groupe de jeunes, il s'appelait Bilma. C'était le camp qu'on faisait, Merin, Bilma, on a toujours fait ensemble avec Cédric. Enfin, je faisais partie du groupe de jeunes de Cédric Chanson. En fait, de son église. Mais je suis pas de cette église-là, je suis de l'église de Lausanne, des Trois Rois. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais en gros, finalement, je vais plus. Oui, je m'appelle Gaël, si jamais. Je vais plus au groupe de jeunes là-bas parce que je travaille sur Genève, mais j'habite toujours sur Lausanne. Donc, je viens au groupe de jeunes ici, mais je suis pas de cette église. En fait, je viens de l'église de l'Assemblée chrétienne des Trois Rois à Lausanne, l'Assemblée d'Arvist. Donc voilà. Merci.
Moi, je vais faire plus court. Je m'appelle Alexia et je suis Corresp.
Et je m'appelle Cécile et je suis Corresp.
Je m'appelle Rachel et je suis responsable.
Moi, c'est Michaela et je suis responsable. Co-responsable, en fait, le but, c'est de ne pas avoir directement trop de responsabilités, de pouvoir entrer gentiment, et puis aussi d'être suivi par un responsable, puis de collaborer ensemble, et puis d'avancer de la sorte. Voilà. Mais au final, on a tous le même statut, il n'y a pas de discrimination.
Nous te remercions de ce que la vie aussi s'est reflétée dans notre jeunesse. Nous invoquons ta bénédiction sur l'ensemble de notre groupe de jeunes. Nous te prions de donner sagesse aux responsables, co-responsables, et beaucoup de joie d'être ensemble, liberté, et Seigneur, qui découvre en toi tout ce que tu as investi dans leur vie, et que ce soit leur enrichissement et pour l'enrichissement de ton Église à l'avancement de ton royaume. Nous te prions, Seigneur, qu'ils puissent entendre l'appel, ton appel dans leur cœur. Et Seigneur, nous désirons être attentifs à ce que tu as désiré nous dire par ta parole ce matin. Qu'on ne passe pas tout simplement autre chose, mais que nous puissions recevoir ce que tu nous as dit à chacun. Nous te bénissons de ce que tu es le Dieu qui parle. Nous t'écoutons, Seigneur. Amen.
Alors on va passer à la bénédiction, je vous invite déjà à vous lever. Et on avait à cœur de reprendre un chant qu'on avait déjà fait à un autre culte, donc c'est le chant qui s'appelle Bénédiction. Je vous invite à chanter avec nous.